Bonsoir.
Je vous invite à ouvrir la parole dans le livre d'Osée, au chapitre 6. Osée, chapitre 6. Et ma question ce soir, c'est de savoir si vous et si nous voulons connaître mieux l'Éternel, si nous pensons que nous n'avons pas besoin d'aller plus loin. Ce verset, en tout cas, nous encourage à le connaître, nous encourage à rechercher, à connaître toujours davantage l'Éternel. Osée chapitre 6, verset 1er. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps arrose la terre. Amen. On va aller voir maintenant un homme qui a vécu des expériences avec le Seigneur. Dans Exode chapitre 15, il a même écrit un chant à la suite de l'une de ses expériences. Et quand on lit les paroles de ce chant, on se rend compte de quelle profondeur cet homme connaissait Dieu. Et ce soir, c'est ce verset que je voudrais vous partager particulièrement, qui m'a interpellé. C'est le verset 11 du chapitre 15 de l'Exode. Cet homme qui a vécu cette expérience, c'est Moïse. Et cette expérience qu'il a vécue, c'est le moment où la mer s'est ouverte en deux et tout le peuple a pu passer. Vous vous souvenez de cette histoire? Et combien c'est une expérience merveilleuse. Mais regardez ce qu'il dit dans ce chant. On pourrait lire le chant en entier tellement c'est merveilleux. Je vous invite à le faire chez vous. Mais au verset 11, il est dit ceci. « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges ? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis par ta miséricorde. Tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. » Amen. Est-ce qu'il n'est pas magnifique ce verset? Ou il n'y a que moi qui suis interpellé ce soir? Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Magnifique en sainteté. Il y a 3 aspects qui sont donnés de la part de Moïse par rapport à Dieu, par rapport aux expériences qu'il a déjà vécues. Et je crois que quand Moïse a écrit ce chant, il ne se contentait pas juste de regarder ce qui venait tout de suite de se passer, c'est-à-dire la mer qui s'est ouverte en deux, et le peuple qui est passé et qui s'est refermé sur l'armée des pharaons et les Égyptiens, mais il repensait aussi à tout ce qu'il a vécu auparavant. Et on sait que Moïse, il avait vécu pas mal de choses déjà. Et on sait même que le peuple d'Israël avait connu beaucoup de choses. Mais Moïse a été inspiré par le Saint-Esprit pour écrire ses paroles. Et ce soir, je voudrais m'arrêter sur chacun de ces aspects. Magnifique en sainteté, c'est le premier aspect. Dieu est saint, ça c'est quelque chose qui est connu. Le fait que Dieu est saint, je pense que même si on demande à quelqu'un dans la rue qui ne connaît pas le Seigneur, et qu'on lui parle de Dieu, qu'est-ce que c'est pour vous Dieu? Bon, mais Dieu c'est quelqu'un qui est parfait, quelqu'un qui doit être saint. Même si les gens ne sont pas forcément d'accord avec, il suffit de lire rapidement la parole de Dieu, on se rend compte que c'est ce qui est donné. Vous savez que dans l'Exode, à 80 reprises, il est question de la sainteté de Dieu, le fait d'être mis à part, le fait de se consacrer, le fait d'être sanctifié. Et dans le Lévitique, n'en parlons pas, c'est encore plus. C'est que ça. Ceci est saint. J'ai noté quelques aspects. Il a une terre sainte, une sainte convocation, des hommes saints, un lieu saint et un lieu même très saint, des vêtements saints, une huile sainte, et on pourrait multiplier les exemples. Mais vous savez que ce qui fait que les choses sont saintes dans la parole de Dieu, ce n'est pas qu'elles sortent, qu'elles sont hors du commun. Les vêtements du sacrificateur, ils n'étaient pas tout en or. Ce n'est pas pour ça qu'ils étaient saints. C'est parce qu'ils étaient faits selon le modèle que Dieu avait dit au travers de sa parole. Ce qui a conféré aux choses la valeur sainte, c'est que c'était conforme à la parole du Dieu qui était saint. Et ce qui fait que nous pouvons marcher dans la sainteté, nous, aujourd'hui, c'est ce qui fait que nous conformons à la parole du Dieu qui nous dit « ceci est saint et ceci est souillé ». Vous êtes d'accord? Je n'invente rien jusqu'à présent. Je ne fais que rappeler des choses toutes simples. Et si je vous dis, par exemple, pour aller plus loin, si je vous dis Ce qui plaît à Dieu, ce qui était agréable à Dieu, c'est que tous les hommes, le dimanche, mettent une cravate. Qu'est-ce que vous allez me dire ? Vous allez me dire, d'accord, mais montre-moi où c'est que c'est écrit. Enfin, j'espère que vous allez me dire ça. Parce que ce n'est pas parce qu'un pasteur dit quelque chose que c'est vrai. Ce qui est vrai, c'est la parole de Dieu. Ce qui nous indique la sainteté, c'est ce qui vient de la bouche de Dieu, c'est de sa parole. Malheureusement, aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui connaissent un petit peu la parole de Dieu, mais qui essayent de vivre leur vie chrétienne sans se conformer à ce qu'elle dit, sans vérifier ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et sans prendre garde à ces choses, les personnes se font leur idée plus ou moins de ce que Dieu attend d'eux, et ils passent à côté de ce que Dieu veut réellement. Dieu est saint, et ce qui est saint, c'est seulement ce qu'il dit. Mais ce passage nous dit que Dieu est magnifique en sainteté, et ça va beaucoup plus loin que le fait de savoir que Dieu est saint. Dieu est saint, je le disais, beaucoup de gens savent. Mais qui est capable ce soir de regarder à la sainteté de Dieu et de dire « il est magnifique en sainteté ». Comment est-ce que l'on réagit quand on regarde la sainteté de Dieu ? Je crois que la première fois qu'on le regarde, quand on la regarde cette sainteté, ben, on est pécheur et on s'aperçoit qu'on est souillé. Quand on regarde à la sainteté de Dieu, on se rend compte qu'on est pécheur, on est mal à l'aise, on est honteux face à notre péché. Il y a des gens, malheureusement, aujourd'hui, quand ils regardent la sainteté de Dieu, ils sont totalement indifférents, totalement hermétiques. Ils ne laissent pas le Saint-Esprit pénétrer leur cœur et leur montrer leurs conditions réelles. Mais quand quelqu'un d'honnête regarde à la sainteté de Dieu, la première réaction normale, c'est de se sentir tout petit. C'est de se sentir moins que rien. Mais Dieu... Moïse nous dit que Dieu est magnifique en sainteté, c'est-à-dire qu'il a dépassé cette étape encore. Et Dieu veut que nous dépassions l'étape. C'est merveilleux quand on regarde à la sainteté de Dieu et on est convaincu de péché. C'est merveilleux ce moment-là parce que c'est le moment où on peut demander pardon pour notre péché et le Seigneur fait son œuvre de purification en nous. Mais Dieu veut qu'on aille encore plus loin à ce que quand nous considérons sa sainteté, ça soit quelque chose de magnifique, quelque chose qui, comme ça nous attire, comme si on était un aimant attiré par un autre aimant, quelque chose qui nous donne envie d'aller plus loin, quelque chose qui nous tire vers l'avant. C'est ça que ça veut dire magnifique en sainteté. Et je réfléchissais à ce passage, à cette expérience qu'il vient de vivre, qui est quand même incroyable. Mais à quel moment dans cette expérience est-ce que Moïse voit la magnificence de la sainteté de Dieu. Parce que je trouvais que ce n'était pas forcément évident. Quand on regarde la mer qui s'ouvre en deux, bon, c'est incroyable. Opérant des prodiges, bon, là, ça colle tout à fait. C'est un prodige qui s'est passé. Mais où c'est qu'il y a la magnificence de la sainteté dans cette expérience ? Alors, j'ai réfléchi un petit peu. Ça m'arrive. Oui, il faut prier pour moi pour que ça soit encore plus actuel. Mais... imaginez un instant, vous avez tous vécu ce moment où vous regardez la mer. Vous regardez la mer, vous voyez les vagues qui viennent, qui déferlent sur le rivage. Et vous avez tous été pendant un moment, simplement devant la création, admiratif. Peut-être que vous n'avez pas tous été dans cette situation, je l'ai vécu, où j'étais à Biarritz, au bord de l'océan. Et puis là, ce jour-là, par contre, ce n'était pas la mer toute paisible, c'était l'océan qui était déchaîné. Il y avait des vagues incroyables. Et c'est comme si les vagues venaient frapper le bord et essayer d'arracher à chaque fois des morceaux du bord. Et même en se tenant à plusieurs mètres, on ressentait toute l'eau qui était évacuée, la force de l'eau, des éléments. C'était quelque chose d'incroyable. Et là, on n'était pas seulement admiratif, on était impressionné. Vous comprenez ? Maintenant, imaginez ce moment où ce qu'on a vécu, où le vent soufflait tellement fort que ça a créé un chemin, un couloir au travers de la mer. Et quand ils regardaient de chaque côté, ils voyaient des barrières d'eau qui étaient là. Et ils ont pu marcher dans ce chemin-là, cette ambiance qui était là, le vent qui soufflait fort, les vagues qui étaient déchaînées mais qui s'arrêtaient pile poil au bon endroit. Comment ils étaient les personnes ? Encore plus étonnées, admiratives, encore plus bouleversées, interpellées par ce qu'ils voyaient. Maintenant, prenez tout ça et rajoutez le fait que c'est le peuple saint, le peuple que Dieu avait choisi, le peuple qui était mis à part par le Seigneur, qui a traversé cet endroit-là, et que l'ennemi qui voulait le poursuivre, l'ennemi qui voulait les détruire, s'est retrouvé englouti. Et là, vous comprenez. Vous comprenez ce que Moïse il voulait dire par magnifique en sainteté. Ça veut dire, magnifique en sainteté, ça veut dire que Dieu déploie les moyens pour défendre sa sainteté. Dieu s'était acquis ce peuple. Dieu avait choisi ce peuple parmi toutes les nations pour que ça soit son peuple à lui. Et il a déployé les moyens quand il a vu que son peuple était en danger pour que le peuple soit protégé. Et on voit de quelle manière il a fait, de manière grandiose. Mais c'est exactement ce qui se passe pour chacun de nous dès l'instant où nous appartenons au peuple saint. C'est un principe biblique. Regardez ce qu'il est dit. On relit ce verset 13. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Dans toute cette histoire et toute la parole de Dieu, le Seigneur ne fait qu'une chose, c'est défendre sa sainteté. C'est-à-dire que dès l'instant où il se retrouve, il y a cette image qui est donnée dans les psaumes, que Dieu est dans les demeures de sa sainteté, dans les lieux célestes. On a cette image comme s'il était un petit peu loin à cause de sa position sainte. Mais c'est seulement une image, hein, parce qu'on sait qu'il est omniscient et omniprésent. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe sur la terre et c'est comme si Dieu était interpellé à ce moment-là de protéger une personne, d'intervenir pour quelqu'un parce que cette personne, elle fait partie de son peuple. Ou on verra plus tard parce que c'est une personne qui vit quelque chose de particulier. Mais regardez ce qui s'est passé avec ce peuple. Au verset 8, il est dit « Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés comme une muraille. » Les flots se sont durcis au milieu de la mer. Quand Dieu est dans sa position, dans la demeure de sa sainteté, qu'il voit une personne de son peuple qui est dans le besoin, comme c'était le cas de Moïse et de tout ce peuple, alors il a voulu insuffler quelque chose de nouveau dans cette situation pour qu'il puisse y avoir un chemin qui se crée, même là où il ne devait pas y avoir de chemin. Et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est ça que ça veut dire, magnifique en sainteté. C'est pour cela que ce soir, la question qu'il faut se poser, c'est pas de réfléchir comment je vais m'en sortir, mais c'est de savoir est-ce que je suis dans le peuple saint. Est-ce que je fais partie des élus? Est-ce que je fais partie de ce peuple que Jésus s'est acquis au prix de son sang? C'est ça la bonne question à se poser. Est-ce que je fais partie? Est-ce que nous faisons partie, frères et sœurs? Je l'espère, si nous sommes là ce soir, si nous avons le désir d'aller plus loin avec le Seigneur, c'est que nous faisons partie de ce peuple que le Seigneur s'est acquis. Il y a un verset qui nous dit dans la parole de marcher sur la voie sainte, sur le chemin frayé, où nul impur ne passera. Il y a un chemin que Dieu trace et que personne qui ne marche pas dans la sanctification ne peut marcher. Le chemin que Dieu trace pour ses enfants, on ne peut pas s'amuser à y marcher avec légèreté. Dans Hébreux chapitre 12, il est dit « Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et ce soir, combien nous avons besoin de comprendre que Dieu est celui qui défend ce qu'il a déclaré saint. Et voilà, tout simplement, qu'est-ce que je suis saint? Est-ce que je fais partie de ce peuple? Mais Dieu ne défend pas seulement ces personnes-là, Dieu défend aussi celui qui se rend compte de sa souillure. Regardez dans Isaïe chapitre 57, il y a ce verset qui est remarquable et qui doit encore ce soir nous encourager. Isaïe chapitre 57, verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais, et c'est un mais qui est tellement important, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Si je n'appartiens pas ce soir au peuple saint, alors j'ai cet espoir que par la grâce de Dieu, je me rende compte de ma souillure, j'ai le cœur qui soit brisé, contrit dans la repentance parce que je me rends compte de mon péché. Et dès que je suis dans cet esprit-là, dans mon cœur, eh bien, je peux crier au Seigneur et le Seigneur vient me secourir. Il est dit qu'il est venu, il vient pour ranimer. Encore une fois, par son souffle puissant, il est celui qui amène une personne qui était morte spirituellement à la vie spirituelle dès l'instant où le Seigneur souffle parce qu'il trouve un cœur repentant, un cœur contrit. C'est ce qu'il fait le Seigneur. Mais encore, une fois, le Seigneur va plus loin. Il est capable même de défendre celui qui subit les injustices. Dans le psaume 68, un psaume que j'aime beaucoup aussi, au verset 6, il est dit que Dieu est le père des orphelins, le défenseur des veuves. Quand on est orphelin ou quand on est veuve, c'est pas quelque chose qu'on choisit. C'est des choses qui arrivent dans la vie, mais qui sont tellement dures à vivre. Mais Dieu choisit d'être le père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Dieu est celui qui prend soin de la personne qui traverse une épreuve. Il est celui qui prend soin de l'orphelin. Il est celui qui prend soin de la veuve. Il est celui qui prend soin de celui qui est captif et qui est dans un péché, mais qui est pour qui c'est impossible qu'il puisse se débarrasser de ces choses. Dieu est celui qui prend soin de ces personnes. Parce qu'il défend l'injustice. Parce qu'il est celui qui veut apporter son secours pour que ces personnes puissent se tourner vers lui. Et combien de personnes qui n'étaient pas des chrétiens ont été exaucées ou ont vu une personne de leur famille être guérie suite à l'exaucement de quelqu'un, un chrétien qui est venu prier. Est-ce que Dieu exauce parce qu'on est chrétien? Vous savez bien que ce n'est pas ça. Dieu, il fait grâce. Mais une fois qu'on a vécu, qu'on a vu, qu'on a expérimenté que Dieu a exaucé la prière, après, on est confronté au choix de dire « Oui, Seigneur, j'accepte. Oui, Seigneur, je veux aller plus loin maintenant. Et Seigneur, j'ai compris que tu étais saint, j'ai compris que tu étais même magnifique en sainteté. Seigneur, je veux aller plus loin. » Ou alors, on a le choix de dire non. Et malheureusement, dans Ésaïe 63, on voit des personnes qui ont mal réagi, des personnes... Il est dit qu'ils sont carrément rebelles. Ésaïe 63, verset 10. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Vous entendez ces paroles tellement dures? Dieu est devenu celui qui combattait contre eux. Pourtant, Dieu est celui qui déploie tous ses moyens pour défendre sa sainteté. Mais si nous sommes rebelles, si nous sommes rebelles à ses commandements, si nous sommes rebelles à la façon dont Dieu agit dans notre vie, aux circonstances de nos vies, et que nous n'acceptons pas ce qui se passe, si nous sommes rebelles et que nous ne faisons pas confiance à Dieu, Dieu devient notre ennemi. Si nous attristons son Esprit Saint, personne qui attriste l'Esprit Saint de Dieu, c'est la personne qui n'est pas intéressée à marcher dans la sainteté, qui est intéressé à marcher selon ce qu'elle pense qui est bien. C'est ça une personne qui attriste le Saint-Esprit. Mais Dieu devient celui qui combat contre nous. Heureusement, ce peuple d'Israël, à cette époque-là, pendant ce moment-là en tout cas, ils ont choisi de laisser le Seigneur combattre pour eux, et on voit que le résultat était merveilleux. Et le résultat était incroyable. Et si on recherche la sainteté de Dieu, si on croit que Dieu est magnifique en sainteté, alors c'est obligé que Dieu combatte pour nous. Si on fait partie de ce peuple que Dieu chérit, de ce peuple que Dieu s'est acquis pour sa gloire, alors Dieu combattra pour nous. Et combien je nous exhorte à être de ce peuple-là et à pouvoir vraiment chercher à contempler la sainteté du Seigneur et à dire « Seigneur, oui, je veux ». Je veux comprendre que tu es magnifique en sainteté. Mais il est dit quelque chose d'autre juste après. Dieu est digne de louange. Est-ce que c'est bien de louer le Seigneur? Bon, j'espère que oui. Hein. J'espère que c'est ce que vous pensez, que vous ne dites pas ça pour me faire plaisir. Et que non seulement vous le pensez, mais que vous l'expérimentez dans votre vie personnelle. Parce que c'est ça le plus important, parce que c'est facile de louer le Seigneur à l'église. C'est tellement facile. Quand on entend tout le monde qui chante, de chanter des louanges, quand on entend les gens qui louent le Seigneur le dimanche matin, c'est facile de joindre notre voix. Mais c'est beaucoup plus difficile de le faire quand on est dans l'épreuve à la maison, quand on ne dort pas la nuit, comme ça arrivait à Janson, et qu'on est inquiété par ce qui se passe. C'est difficile à ce moment de louer, mais c'est là que le Seigneur regarde. Et Dieu qui est digne de louange mérite cette louange. Est-ce que Dieu qui a ouvert la mer en deux, il méritait la louange? Au moins une parole, au moins un merci. Je veux dire, le merci, c'était le minimum. Mais là, Moïse était tellement reconnaissant qu'il a écrit, qu'il a composé un cantique pour le remercier. Et je crois qu'il a bien fait. Mais combien c'est important que nous puissions être reconnaissants. Et quand c'est que nous devons l'être ? Seulement après l'épreuve et que Dieu a béni ? C'est là que nous devons être reconnaissants ? Quand c'est que... Est-ce qu'il y a un livre dans la parole de Dieu qui parle beaucoup de la louange, qui nous explique comment nous devons louer? Est-ce qu'il y a un livre qui en parle particulièrement dans l'Ancien Testament, pour vous aider? Les psaumes. Si vous lisez les psaumes, vous verrez que le mot louange, il revient à des centaines de reprises. Et dans un psaume en particulier, je le lis pour vous, c'est le psaume 34, verset 2, il est dit « Je bénirai l'Éternel de temps en temps, en tout temps, pardon, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. » C'est-à-dire que quand le Seigneur a béni, il a ouvert la mer en deux et il a refermé la mer sur les Égyptiens, une épreuve magnifiquement terminée, je bénirai l'Éternel. Mais même avant l'épreuve, même quand je suis coincé, qu'il y a l'ennemi qui est derrière et que devant il y a un mur, là aussi je louerai l'Éternel. Et là, par contre, le peuple d'Israël, il n'y était pas. Moïse, je crois, lui, il était dans cet état d'esprit de louange. Il n'était pas inquiet. Il n'était pas apeuré par la situation. Pourquoi ? Parce qu'il connaissait Dieu. Parce qu'il avait la vision que Dieu défendait son peuple saint. Il savait que c'était Dieu qui lui avait commandé de venir là. Il savait. En plus, il est spécifié juste avant, dans l'Exode 13, je crois, que Dieu n'a pas choisi qu'il passe par le chemin des Philistins. Il a choisi de faire un détour par le désert exprès. Et ce chemin les a conduits à la mer Rouge. Dieu savait ce qu'il faisait. Et Moïse savait que Dieu savait ce qu'il faisait. Tandis que les Israélites, ils n'avaient pas cette confiance. Et le moment où ils étaient apeurés comme ça, le moment où ils étaient dans cette situation terrible, ils n'ont pas fait retentir un chant de louange. Ils l'ont fait qu'après. Mais combien c'est important que nous puissions être de ceux qui sont capables d'être reconnaissants, même dans les moments difficiles, même dans la difficulté. Est-ce qu'il n'y a pas des fois où on oublie de louer le Seigneur ? Est-ce qu'il n'y a pas des moments dans nos vies, même quand on n'a vécu une bénédiction ? Des fois, moi ça m'arrivait. Des fois j'avais vécu vraiment une bénédiction et tellement dans l'euphorie de la bénédiction, on oublie même de dire merci au Seigneur. Et le soir, j'étais reproché dans mon cœur. Et le soir, j'étais obligé de dire Seigneur, pardonne-moi de ne pas l'avoir fait avant, mais je veux te bénir parce que tu es intervenu dans ma situation. Si Dieu est digne de louange, ça veut dire qu'il est digne d'être loué quand ça va ou quand ça ne va pas. Quand il agit ou quand il fait totalement silence, quand on a l'impression que le ciel est d'airain, il mérite d'être loué. Digne de louange, ça veut dire digne, il le mérite. Ce n'est pas une question de circonstances, il le mérite, c'est comme ça, c'est sa nature. Dieu mérite notre louange. Mais dans cette expression, on se rend compte qu'en français, ça ne ressort pas. Je l'ai trouvé dans d'autres versions. La version Martin nous dit « digne d'être révéré et célébré ». La version Semeur nous dit que Dieu est redoutable et digne de louange. Littéralement, c'est vraiment, il y a cet aspect de la crainte de Dieu. On le craint tellement qu'il doit être loué. Ce qui motive notre louange, c'est qu'il y a la crainte de Dieu dans notre cœur. C'est ça, en fait, que ça veut dire l'expression. Donc, vous comprenez bien que digne de louange, ça fait un petit peu réduit. Mais quand on regarde, cela, on comprend. Qu'est-ce qui motive souvent notre louange ? Souvent, ben, on est motivé par les émotions, ce qu'on ressent. Ah, s'il y a peut-être beaucoup d'instruments, alors là, c'est merveilleux. La louange, elle est merveilleuse. Les chants, ils retentissent. Il y a des frères qui font une voix, deux voix, trois voix. Ah, c'est merveilleux, on a passé un bon moment de louange. C'est ça, la louange que Dieu mérite. Ah, on a chanté six chants au lieu de chanter cinq chants. Ah, on a fait 20 minutes au lieu de faire 15 minutes. Alors, le Seigneur ne va pas bénir. C'est ça, la louange que Dieu attend ? Je sais, je vous embête avec mes questions. Hein. Ah, j'ai besoin de force, alors je vais chanter un chant qui parle sur la force. Oui, je suis fort, oui, plus que vainqueur. Voilà, je vais chanter ce chant. Oui, mais si tu ne puises pas la force dans le Seigneur, si tu ne fais pas ce que le Seigneur te recommande pour être fortifié, tu auras beau chanter 1000 fois « Je suis fort », ça ne marchera pas. Parce qu'on ne chante pas notre louange, elle ne doit pas être superstitieuse. Mais Dieu est redoutable et digne de louange. Donc ce qu'il demande, c'est que dans notre louange, que notre louange soit le fruit de la crainte qu'il y a pour lui dans notre cœur. Tout simplement. Est-ce que quand je loue le Seigneur, ce n'est que l'expression de la crainte que j'ai et qui s'extériorise? Est-ce que c'est ça, la louange que j'offre au Seigneur? En tout cas, c'est ce que ce passage nous invite à avoir. Dans le psaume 22, il est dit « Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. » Vous imaginez? La crainte de Dieu et la louange, ce n'est pas quelque chose qu'on associe d'habitude. Mais ce que la louange que Dieu demande, c'est la louange qui provient d'un cœur qui a la crainte de Dieu. C'est ça? Et quand il est dit que Dieu est redoutable et digne de louange, c'est-à-dire que j'ai tellement compris, parce que j'ai contemplé sa sainteté, parce que j'ai compris le caractère de Dieu, et que je me suis laissé saisir par cela, j'ai mis de l'ordre dans ma vie, et parce que ça a amené la crainte dans mon cœur, alors il y a une louange qui monte. Il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur. Regardez, on revient dans Exode, au chapitre 14, on lit un petit peu quand même le contexte. Et on voit qu'au début, avant l'épreuve, le peuple était dans la crainte, je le disais tout à l'heure, mais on va le lire au verset 13 du chapitre 14. Et Moïse qui leur répond. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien. » Donc ils sont là, dans la peur. « Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. On va au verset 30. Donc juste après que Dieu soit intervenu, en ce jour l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens et le peuple craignit l'Éternel. Et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Amen. Vous avez vu qu'ils étaient dans la peur? Ils sont passés de la peur à la crainte. Parce qu'ils ont vu la main puissante de Dieu agir. Est-ce que c'était bien? Et suite à ce moment de crainte où ils se sont rendus compte que le Dieu était puissant, Dieu est intervenu, c'est merveilleux, ils ont chanté un cantique. Donc la louange qu'ils ont fait monter vers le Seigneur, elle provenait d'un cœur qui avait la crainte. Est-ce que c'était bien? Mais oui, c'était bien. Le problème, c'est que leur crainte qu'ils avaient, elle n'était que passagère. Tandis que celle de Moïse, elle était affermie. La crainte qu'ils avaient de Dieu, elle n'était que circonstancielle. Parce que Dieu avait agi, ils avaient la crainte. Moïse, lui, il avait la crainte avant. La crainte de Dieu, cette révérence envers Dieu. Il savait que Dieu était redoutable. Il savait que Dieu, et que c'est quelqu'un qu'on doit obéir, c'est quelqu'un qu'on doit suivre. Et il aimait la présence de Dieu, cet homme. Et ce qui s'est passé, et le problème qu'on peut rencontrer, c'est qu'on peut louer Dieu sans le craindre. On peut louer Dieu sans que ça soit vraiment l'expression de notre cœur au plus profond. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé pour ce peuple. Eux, ils ont eu un autre problème, c'est qu'ils ont craint Dieu. Seulement après avoir vécu quelque chose avec le Seigneur. Où c'est qu'elle en est notre crainte à nous? Vous savez, je parlais encore il y a quelque temps avec quelqu'un, il disait « Ah, mais si on voyait des prodiges, si des miracles, alors on aurait plus de crainte. Enfin, » Je ne disais pas comme ça, mais je l'adapte pour ce soir. Est-ce que vous pensez qu'en voyant des prodiges et des miracles, ça va amener de la crainte? Mais oui, la preuve en est, c'est que c'est ce qui s'est passé pour ce peuple. Mais est-ce que ça sera la crainte que Dieu attend de nous? Si c'est une crainte qui est basée que sur le miracle, alors c'est pas bon. Parce que notre crainte de Dieu ne doit pas être basée sur le miracle, sur le prodige, sur la façon dont Dieu agit, mais notre crainte de Dieu doit être basée sur Dieu, sur la personne de Dieu, sur son caractère, sur le fait qu'il est saint, sur le fait qu'il est puissant, sur le fait qu'il est fidèle. Et c'est ça qui fait que si je traverse une épreuve, mais je sais que Dieu est fidèle. Alors, même avant que l'épreuve soit terminée, j'ai la crainte de Dieu. Je lui fais confiance. je suis dans la paix malgré tout. Mais ce n'est pas quelque chose qui peut se passer quand on est fixé sur l'épreuve, et quand on est fixé sur les circonstances, et quand on est fixé sur les raisonnements humains. Voilà pourquoi nous avons besoin de réfléchir que Dieu est redoutable et digne de louange. Mais Dieu est aussi celui qui fait des prodiges. Est-ce que vous voulez voir des prodiges? Non? On veut voir tous des prodiges. Je vous avais pas répondu, mais je vous englobe, j'englobe tout le monde. On veut tous voir des prodiges et des miracles. Mais vous avez vu qu'il y a un ordre qui est donné. Magnifique en sainteté, digne de louange, pardon, digne de louange, opérant des prodiges. Et si Dieu avait mis opérant des prodiges avant, ça nous aurait tous arrangé. Mais Dieu, il fait bien les choses. Et Moïse, il avait cette connaissance de Dieu tellement profonde qu'il a, par le Saint-Esprit, été inspiré pour donner ses paroles. Il faut d'abord comprendre la sainteté de Dieu. Il faut d'abord avoir la crainte de Dieu dans notre cœur et avoir cette louange qui s'extériorise pour qu'après, le Seigneur puisse vraiment faire des prodiges. Pour qu'après, le Seigneur puisse intervenir. Bien sûr, Dieu est intervenu envers ces personnes parce qu'il leur a fait grâce. Mais on connaît la suite. Juste après ce miracle merveilleux, la mer qui s'ouvre en deux, les 10 plaies d'Égypte qui étaient quelque chose d'incroyable qui s'est passé, juste après ce moment-là, ils sont arrivés dans un endroit où il y avait de l'eau amère et ils ont commencé à se plaindre. Ils ont commencé à murmurer. Juste après avoir vu des choses incroyables. Si Dieu avait ouvert la mer en deux, est-ce qu'il n'était pas capable de purifier l'eau, d'assainir l'eau qui n'était pas bonne? Quand même, s'il a ouvert la mer en deux, il est capable de tout. Le problème, c'est qu'ils avaient déjà oublié l'expérience qu'ils avaient faite. Et je voudrais finir avec ce psaume 78. Psaume 78, vous savez que le conseil que Moïse a dit à ces personnes, alors qu'ils étaient dans l'inquiétude, il leur a dit, taisez-vous, faites silence, gardez le silence plutôt, l'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et c'est vrai que des fois, ce n'est pas facile de garder le silence quand on est dans l'épreuve. Ça ne veut pas dire de pas ouvrir son cœur à un frère pour qu'il puisse nous exhorter. Mais c'est garder le silence des mauvaises paroles, des mauvaises pensées. C'est ça, garder le silence. Ça ne veut pas dire mettre un bâillon et ne plus jamais parler. Il ne faut pas prendre la parole de Dieu à la lettre, il faut comprendre ce que le Seigneur veut dire. Et malheureusement, quand on voit le psaume 78, c'est un récapitulatif un petit peu de cette période où ils étaient dans le désert. Et au verset 13, donc le contexte est remis. Il fendit la mer et leur ouvrit le passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit des rochers dans le désert. Il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources. Et couler des eaux comme des fleuves. Et regardez comment ils ont réagi. Mais ils continuèrent à pécher contre lui. Comment ils ont péché? À se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Ils parlèrent contre Dieu. Alors qu'ils avaient entendu ce conseil, quand vous êtes dans l'épreuve, gardez le silence et l'Éternel va combattre pour vous. Ils parlèrent contre Dieu. Et regardez ce qu'ils disaient. Ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher et des eaux ont coulé, et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? L'Éternel entendit, et lui qui était favorable à les aider, qu'est-ce qu'il a dit? Il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob. Et la colère s'éleva contre Israël. Alors que Dieu était celui qui voulait défendre son peuple saint, il n'a pas pu le faire. Enfin, il a fait quand même malgré tout, mais il y a la colère de Dieu qui a dû se manifester aussi. Parce que dans leur cœur, il y avait des paroles qui étaient contre Dieu. Parce qu'ils n'avaient pas choisi de garder le silence. C'est vrai que ce n'est pas facile, quand ça ne va pas, que les pourquoi ne montent pas et ne jaillissent pas dans notre cœur. Ça peut arriver. On voit dans la parole de Dieu des hommes qui ont dit pourquoi, mais qui se sont ressaisis aussitôt. Et le problème, il est là. C'est que des fois, on n'est pas capable de se ressaisir et que du coup, l'Éternel est obligé de combattre contre nous pour nous faire entendre raison. Et ce peuple, combien de fois le Seigneur a dû le rappeler à l'ordre? Regardez ce qu'il est dit dans ce verset. C'est le verset 40. Non, pardon, verset 34. Regardez comment c'est fort ces paroles. Quand il est frappé de mort, il le cherchait. Il revenait et se tournait vers Dieu. Et il se souvenait que Dieu était leur rocher et que le Dieu très haut était leur libérateur. Seulement quand il est frappé à mort, c'est à ce moment-là seulement qu'il cherchait Dieu. Frères et sœurs, vous savez avec moi combien c'est une bénédiction de chercher Dieu en tout temps. D'avoir compris que si nous voulons que Dieu combatte pour nous, alors ce que nous devons faire, c'est regarder sa sainteté, regarder notre Dieu, apprendre et chercher à le connaître davantage, afin que nous ayons la crainte de son nom dans notre cœur, afin que la louange jaillisse de notre vie. Vous savez, David a dit quelque part que quand il avait un chant de louange sur sa bouche et les gens qui le regardaient avaient la crainte en le voyant. Quand quelqu'un vit une expérience difficile et que Dieu le bénit et qu'il y a un chant de louange qui monte, vous savez combien ça peut encourager les personnes autour. Mais je finis avec ce verset, verset 3 du psaume 78. Il y a ceux qui parlent contre Dieu, il y a ceux qui laissent exprimer toute leur amertume, qui laissent exprimer tout leur cœur et qui malheureusement s'opposent à Dieu, et Dieu est obligé de s'opposer à eux. Mais il y a ceux qui font totalement l'inverse, qui font ce qui est marqué dans ce verset. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût comme de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements, afin qu'ils ne soient pas rebelles comme leur père. Il y a une génération qui a choisi de parler contre Dieu, puis il y a une génération qui choisit de s'exhorter dans ces moments difficiles, de se souvenir de ce que Dieu a déjà fait. Si pendant un instant, aux eaux de Marah, ils s'étaient souvenus que Dieu était intervenu, pensez pas qu'ils auraient eu moins de rancœur. C'est clair. S'ils s'étaient souvenus pendant une minute des 10 plaies d'Égypte, comment Dieu était intervenu, alors ils auraient dit, Seigneur, on attend que ta délivrance, on sait que tu es fidèle. Et je crois que c'est une bénédiction quand on a l'occasion dans notre propre vie de se souvenir de toutes les expériences qu'on a vécues. Quand on est dans le plus bas du creux de la vague, qu'on se souvient de comment Dieu nous a bénis avant. Et notre cœur est exhorté. Et des fois, on a tellement de mal qu'on n'arrive même plus à se souvenir de ces moments, alors on va voir un frère. On va voir un frère plus âgé. Et on partage, il nous ouvre son cœur, il nous partage des expériences, comment Dieu a béni, comment Dieu a touché. On va voir une sœur qui est notre voisine peut-être, et on discute avec elle, et elle nous encourage en nous disant comment Dieu est intervenu dans sa vie. Combien c'est bon quand on se souvient de quelle manière Dieu a déjà fait des prodiges. Et le Dieu qui a fait des prodiges dans le passé est le même qui va faire des prodiges dans le futur, mais il ne pourra le faire qu'avec des personnes qui choisissent de garder le silence dans l'épreuve, qui choisissent plutôt de le considérer. Seigneur, oui, tu es magnifique en sainteté, tu es redoutable et digne de louange. Seigneur, tu es celui qui opère des prodiges. Qui ce soir a besoin d'un prodige? Qui ce soir a besoin d'un miracle que seul Dieu peut intervenir dans sa vie, dans la situation qu'il traverse? Qui ce soir veut dire au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin que tu fasses quelque chose, parce que sinon je ne peux pas m'en sortir? Eh bien, dans ces instants, alors qu'on va prier le Seigneur, c'est le moment de crier à lui. Dieu, il habite dans les lieux élevés, mais il est près de celui qui a le cœur contrit et humilié. Prions le Seigneur maintenant. Qui ce soir veut dire, Seigneur, oui, oui, c'est vrai, Seigneur, je sais que tu es capable de faire des prodiges. Quand je lis ce récit, comment tu es intervenu en faveur de ce peuple, même s'ils n'étaient pas parfaits. Comment tu es intervenu en faveur de Moïse? Seigneur, je crois que tu peux intervenir dans ma situation. Seigneur, mais je veux être quelqu'un qui regarde à ta sainteté et qui est capable de la regarder avec plaisir parce que lui-même, il marche dans la sainteté. Qui peut regarder la sainteté de Dieu et commettre un péché en même temps et ne pas être reproché dans son cœur? C'est pas possible. Mais celui qui peut dire magnifique en sainteté, c'est la personne qui a déjà réglé le problème de la sainteté dans sa vie, qui a accepté Jésus dans son cœur, qui a accepté de demander pardon pour son péché et qui veut aller plus loin encore. Qui est celui qui veut faire monter une louange vers le Seigneur? C'est la personne qui a la crainte de Dieu dans son cœur. Oui, Dieu est redoutable et digne de louange. Dieu est celui qui opère des prodiges. Mon frère, ma sœur, ce soir, crois. Crois que Dieu est celui qui veut opérer des prodiges dans ta vie. Mais alors que tu crois cette parole, fais silence. Il y a des fois où le Seigneur parle avec sévérité, mais c'est pour notre bien. Et ce soir, il nous dit cette parole. Tais-toi, fais silence dans ton cœur. Arrête plutôt ces pensées qui sont là. Fais silence dans ta vie et confie-toi dans ton Dieu. Souviens-toi des prodiges qu'il a fait déjà dans ta vie. Apprends les prodiges qu'il a fait autour de toi, à tes frères, à tes sœurs. Et garde le silence devant lui. Et l'Éternel combattra pour toi. Merci Éternel pour ta parole. Merci Seigneur parce que nous considérons en travers de ta parole combien tu es puissant. Combien Seigneur c'est vrai tu es digne de louange. Seigneur nous bénissons ton Saint-Nom. Parce que au travers de ta parole nous pouvons te connaître plus. Et Seigneur c'est ta parole qui nous demande même de te connaître davantage. Oui, nous voulons te connaître parce que nous savons que ta venue est certaine. Nous savons que tu reviens bientôt et nous voulons être prêts pour ton retour. Mais non seulement nous-mêmes, mais les personnes autour de nous, nous voulons qu'elles soient prêtes. Oh Seigneur, que les gens, nous voyant la louange qui monte de nos cœurs qui sont dans la crainte, puissent eux-mêmes à leur tour avoir la crainte de ton nom. Que les gens, Seigneur, en voyant les prodiges que tu fais pour nous, puissent avoir, Seigneur, ce respect pour toi et cette question puisse être réglée par rapport à leur éternité dans leur vie, Seigneur. Tu vois autant de personnes qui sont autour de nous et qui ne te connaissent pas, Seigneur. Oui, nous te prions pour que nous puissions être ces serviteurs entre tes mains, remplis de l'Esprit, qui marchent dans la sainteté, qui, Seigneur, te contemple la magnificence de ta sainteté et qui la reproduisent par leur propre vie. Merci Éternel de poser ta main sur le frère ou sur la sœur qui ce soir a besoin de ton intervention et Seigneur de manifester ta gloire, de sanctifier ton nom Seigneur au travers de ces situations. Merci Éternel. Amen.